Le vendredi 29 mai, avec mon travail, j'ai pu aller au Festival d'Humour à la Charité-sur-Loire. L'enregistrement qui va suivre est un enregistrement d'une conférence qui s'appelle François Truffaut, Les mots de la passion, qui est réalisé par Serge Taubiana, qui est l'actuel directeur de la Cinémathèque française. La conférence dure à peu près 1 heure. Et en fait, on était cette conférence un peu par hasard, parce qu'on nous a demandé de faire un reportage le matin et de voir un petit peu les gens qui déambulaient, les artistes qui déambulaient. Et on avait un artiste qui nous a dit on va passer enfin je vais passer, vu que c'était un artiste, je vais passer à partir de 17h. Donc de 14h30 jusqu'à 16h, 17h, on avait du temps libre pour faire un peu de reportage. On a été à une conférence et je me suis dit ça pourrait être intéressant de l'enregistrer. Et voici le petit résultat. Bonne écoute.
Les mots créent des images, mais les images vont aussi faire naître la parole. Donc je vais vous projeter Léo qui est là, vraiment est d'un appui absolument indispensable. Je vais vous projeter un document de montage qui a été fait par Truffaut lui-même. 1982, pour une émission dont vous vous souvenez peut-être, qui est Le Grand Échiquier de Jacques Chancel. Et il s'est trouvé que Truffaut a été l'invité de Jacques Chancel pour Un Grand Échiquier. Et Truffaut avait le sens très pratique des choses, et pour montrer un peu son œuvre, il a fait trois montages. J'ai choisi celui qui nous concerne sur l'écriture. Et vous allez voir, avec ce petit montage de quelques minutes, combien l'écriture, les mots, la parole ont une importance tout à fait essentielle dans son œuvre. Voilà, donc on regarde ça d'abord et puis après on commence à notre petite conférence causerie. Voilà.
Je suis en voyage avec mon père et nous nous sommes arrêtés à Bruyères-Alichamps, qui est exactement le centre de la France. Je vais aller pour la première fois en colonie de vacances. Et toi? J'espère que ce sera une colonie mixte. Ta cousine qui t'embrasse, Martine.
Monsieur, je vous prie d'excuser mon fils René. René qui a été malade. Mon fils René.
Jim, ta grande lettre bouleverse tout. Ce matin, je me suis dit, dans 2 jours, il sera là, lui, et pas une pauvre lettre. Rassemblons vite nos duretés d'avant-hier. Or, elles ne viennent pas. Jim, viens quand tu peux, mais peu bientôt. Arrive, même tard dans la nuit. Je t'aime, Jim. Il y a tant de choses sur la Terre que nous ne comprenons pas et tant de choses incroyables qui sont vraies. Je suis enfin féconde. Remercions Dieu, Jim. Prosterne-toi. Je suis sûre, absolument sûre, que c'est toi le Père. Je te supplie de me croire. Ton amour est une partie de ma vie. Tu vis en moi. Crois-moi, Jim. Crois-moi. Ce papier est ta peau. Cette encre est mon sang. J'appuie fort pour qu'il entre. Réponds-moi vite.
Sabine ! Sabine !
Regarde, ce sont tes lettres, et je te les rends. Tu ne peux pas garder ici ce paquet de mensonges.
Sabine, mon amour, je viens de rentrer chez moi et je ne peux pas attendre pour t'écrire. Finalement, je n'ai pas eu le courage d'aller au cinéma sans toi. Sabine, je t'ai quitté il y a une heure et je ressens un grand vide. On se connaît à peine et déjà il faut être séparé. C'est dur, tu vois.
Votre déclaration d'amour est très joliment tournée. On sent tout de suite l'homme d'expérience. Je veux ce soir écouter Maurice Leroux, y serez-vous? Merci pour les bouquins. Ah, j'oubliais, ma mère vous a trouvé l'air romantique, probablement à cause de la longueur de vos cheveux. À ce soir, chère amie, Colette.
Vous refusez de me parler. Acceptez-vous de me lire? Je veux vous écrire aujourd'hui des choses que je n'ai jamais osé vous dire parce que vous êtes imprévisible et que parfois vos réactions me font peur. Et puis aussi parce que ce sont des choses que j'ai tardé à m'avouer à moi-même. Comme vous, je sais qu'il n'est pas facile de vivre avec les vivants. C'est plus simple avec les morts. Ils sont enfermés entre les murs transparents de notre imagination. Ce que vous n'avez pas compris et que je me décide à vous dire, c'est que je vous aime. Mais je sais que pour être aimée de vous, il me faudrait être morte.
Les images de ma vie se pressaient, les souvenirs affluaient d'eux-mêmes. Je tapais avec deux doigts, le plus vaillamment possible. Le mouvement de la machine entraînait celui de la pensée, et j'avais l'impression que mon livre s'écrivait tout seul. Je racontais tout, ce qui me semblait important, ce qui me semblait curieux. C'est certainement à ma mère que je suis redevable d'avoir très tôt aimé les livres, la lecture. Une fois pour toutes, elle m'avait interdit de jouer, de bouger ou même d'éternuer. Je ne devais pas quitter la chaise qui m'était allouée, mais par contre, je pouvais lire à volonté, à condition de tourner les pages sans faire de bruit. Elle avait l'habitude de se promener à demi-nue devant moi, non pour me provoquer évidemment, mais plutôt, je suppose, pour se confirmer à elle-même que je n'existais pas. En me donnant à poster sa correspondance amoureuse, elle me témoignait une confiance que je ne méritais pas, puisque ses lettres parvenaient rarement à destination. Mon amour, je ne comprends rien à ton silence. Je n'ai reçu aucune lettre de toi depuis 2 semaines. Je me demande si les miennes te parviennent. Décidément, les mystères de la poste sont insondables. Insondables.
Mon amour, je suis tellement heureuse que nous nous soyons retrouvés. Le pire sur la Terre, c'était ton absence. Nous ne laisserons plus de malentendus s'installer entre nous. Je savais que tu ne pouvais pas m'avoir oublié. Quand une femme comme moi se donne à un homme, elle est sa femme. Maintenant, je ne pleure plus. Dans la vie, on ne change pas de père, de mère, d'enfant. On ne change pas non plus de femme, ni de mari. Je suis ta femme, définitivement. Nous resterons ensemble jusqu'à notre mort.
Thank you.
Récemment, juste avant de faire l'exposition que je lui ai consacrée en 2014 pour les 30 ans de sa mort. Et donc, vous voyez, Truffaut avait lui-même ce souci de présenter son œuvre. Bon, c'était pour une émission de grand public, France Antenne 2 à l'époque. Émission d'ailleurs qu'on regrette un peu, qui n'existe plus, sur le service public. On a maintenant plutôt Patrick Sébastien, c'est autre chose, mais... les émissions de Chancel avaient quand même ce souci de la culture et surtout de la diffusion de la culture et des hommes de culture, musiciens, cinéastes, artistes, écrivains, auprès du grand public. Et chez Truffaut, donc, les mots ont une place essentielle. Et ce qui est important, on le voit dans les extraits concernant l'argent de poche, la gamine qui fait sa carte postale, on le voit dans Les 400 coups, son premier long métrage, dans Les Mistons, son court-métrage aussi, Les Enfants, donc, à Nîmes, qui complote un peu contre le couple du film, qui est interprété par Bernadette Lafont et Gérard Blin. Dès l'enfance, les mots, l'écriture ont un sens. Et c'est important parce que ça, c'est lié à la vie de Truffaut et à l'enfance de Truffaut. Je vous montrerai tout à l'heure des documents, quelques documents parmi les milliers et milliers de documents qui constituent ses archives, que dès l'enfance, Truffaut a eu un goût très fort de la lecture, lire et écrire très vite. On voit aussi dans l'extrait, vous avez peut-être reconnu l'extrait de L'homme qui aimait les femmes, le flashback en noir et blanc, dans la mémoire de Charles Denner, qui joue le personnage de L'homme qui aimait les femmes, en train d'écrire son roman, quand il se souvient de lui adolescent, de sa mère, c'est un autoportrait de Truffaut lui-même, qui, dans l'enfance, s'était réfugié dans la lecture, parce que sa mère ne l'aimait pas, ne s'occupait pas de lui, ni son père d'ailleurs, et que donc la seule chose qui lui était autorisée, c'était de ne pas faire de bruit, de ne pas se faire remarquer, donc de lire. Lire, c'est une activité que nous avons, j'espère que nous la partageons tous, nous lisons, et la lecture, c'est le silence aussi. Mais c'est un silence rempli, c'est un silence peuplé, c'est un silence plein de mots, plein de rêveries, de voyages. Bon. Truffaut, enfant, pas très bon élève, aimant l'école buissonnière. Il a un copain d'enfance, dont je vais vous montrer tout à l'heure aussi des cartes postales et des lettres avec lesquelles l'un et l'autre échangent des informations, des goûts, des livres, des films à voir, enfin, dès l'enfance. Donc Truffaut se réfugie dans l'enfance. Voilà. Il y trouve un refuge. C'est un refuge, la lecture. Et l'écriture aussi. Voilà. C'est sa façon à lui, au fond, de se constituer son univers, contre les adultes, contre le monde des adultes en qui il n'a pas confiance. Je ne vais pas vous raconter sa vie, mais vous la connaissez peut-être, elle est racontée très bien dans la biographie qu'on a coécrite il y a quelques années avec Antoine Debecq. Bon, Truffaut est un enfant mal aimé, hein, enfant unique, mal aimé, qui va découvrir assez vite que son père n'est pas son père. Donc il y a quand même un secret de famille qui pèse très lourd sur ses épaules. Et sa mère ne l'aime pas beaucoup parce qu'elle l'a eu un peu contrainte et forcée à l'époque où il est né en 1932, Truffaut. Et elle a eu cet enfant d'un père, d'un amant, d'un père qui était juif et que la famille de cette femme n'aimait pas. Voilà, pour des raisons évidemment lié à une certaine époque, l'antisémitisme et autres. Donc Truffaut va découvrir assez vite, et ça c'est un truc, un secret fort, qu'il aura du mal à partager, mais que le jour de son anniversaire, le 6 février 1932, il ne s'est rien passé dans la vie de son père, Roland Truffaut. Donc c'est un non-événement, et donc ça va le perturber de ne pas être un événement, puisque le père, effectivement, n'est pas celui qui l'a éduqué, Roland Truffaut, n'est pas son vrai père. Voilà. Donc ce secret de famille, cette espèce de mésentente avec sa mère, qui va être constante jusqu'à la mort de sa mère en 1968, Truffaut sera peu entendu avec elle, beaucoup fâché avec elle, et les 400 coups ne vont faire qu'accroître ce désamour familial. Donc pour lui, la lecture, et ses deux grands-mères lui confient des livres, lui font lire des livres, et il va effectivement être boulimique. Voilà, ça c'est une caractéristique de Truffaut avec l'écriture et la lecture, c'est la boulimie. Dès qu'il est, il va lire La Princesse de Clèves, il va lire Balzac, il va lire Madame de Sévigné, il va lire beaucoup de choses, et évidemment, ces lectures, il va en faire une sorte de commerce avec son ami Robert Lachenay, son ami du quartier du 9e arrondissement dans lequel il vit. Ça va devenir un peu leur bagage, quoi. Leur bagage. Ils vont se constituer une sorte de bagage à deux qui va très vite déborder et toucher les films, dès qu'ils vont pouvoir aller voir des films, en quittant l'école, comme on le voit dans Les 400 coups d'ailleurs. Pareil, les livres, les films vont devenir une espèce de monde imaginaire dans lequel ils se sentent à la fois totalement libérés et en même temps coupables. Parce que coupables, pourquoi ? Parce que ils ont un sentiment que c'est un amour clandestin. Et ça, c'est très important. On est juste avant la guerre, la fin des années 30, la guerre arrive. Truffaut raconte ça aussi, je me souviens qu'il avait raconté ça, que pendant la guerre, Paris, les villes, les rues sont... Il habite Pigalle, donc il y a énormément de cinéma à Pigalle à l'époque, hein, c'est un quartier extrêmement riche en salles de cinéma, donc il fréquente les salles de cinéma, souvent ils arrachent les photos qui étaient à la devanture d'acteurs, d'actrices, surtout des actrices, il était très, très amoureux des actrices. Et il disait Paris, les rues étaient souvent vides parce que les hommes étaient à la guerre ou prisonniers, à partir de 1940, prisonniers des Allemands. Sentiment de vie clandestine et en même temps d'une grande liberté pour des enfants qui sont lâchés, voués à eux-mêmes. Ça, c'est l'enfance de Truffaut, dans laquelle, je répète, pour aller vite, la lecture, le goût des mots, quoi. Les mots, c'est... Un mot, c'est quoi ? C'est... Voilà, j'ai choisi ça ce matin, vous voyez. Vampe. Je ne me prends pas pour une vampe. Mais c'est un mot que j'aime beaucoup parce qu'il est désuet. C'est un mot qu'on n'emploie plus. Dans les années 50-60, on disait, tiens, cette actrice, c'est une vampe. Aujourd'hui, on ne dit plus, on dit star à tout bout de champ. Mais je trouve que vampe, c'est un côté un peu désuet que j'aime bien. Voilà. Donc j'ai choisi ce mot en quatre lettres, comme vous tous, j'espère que vous avez choisi votre mot. Mais chez Truffaut, donc voilà, les mots, c'est vraiment le bagage primordial, ce à partir de quoi il se constitue, lui, son identité, sa personnalité. Et c'est une personnalité extrêmement attachante et curieuse parce que, je vous dis, c'est une personnalité qui se forge, qui se forme dans l'enfance avec un compagnonnage très fort. Lachenay va devenir son vrai copain et ils ne vont, pour ainsi dire, jamais se quitter de vue puisque jusqu'à la mort de Truffaut, 1984, Robert Lachenay sera toujours l'ami de Pigalle, l'ami d'enfance avec lequel Truffaut aura des relations régulières. L'aidera dans sa vie parce que Truffaut a évidemment réussi sa vie, Robert Lachenay l'a moins réussi, mais Truffaut sera toujours fidèle en amitié, l'aidera à tout point de vue, matériellement, financièrement et autres. Mais cette amitié, elle est vraiment constituée, comme je vous l'ai dit, dans l'amour de la lecture, l'amour du cinéma, l'amour de l'écriture, et je vous montrais tout à l'heure des documents qui vont être assez éloquents sur, dès l'enfance, comment Truffaut une espèce d'appétit pour l'écriture, pour les mots. Et dans ce que j'ai montré des extraits de ces films, on a plusieurs types de lettres. La lettre, c'est fondamental. Truffaut a été un grand épistolier. Ça, je Je voudrais dire ce deuxième point qui pour moi est essentiel à vous transmettre, mais vous le savez peut-être déjà, mais c'était un homme qui écrivait beaucoup de lettres. C'est un homme qui n'aurait pas du tout aimé le SMS. C'est un homme qui n'aurait pas aimé les portables. C'est un homme qui n'aimait pas beaucoup le téléphone déjà. Il se trouve que je l'ai assez bien connu dans les années 75 jusqu'à sa mort. C'est quelqu'un avec qui il fallait, pour le rencontrer, il fallait lui écrire des lettres. Il aimait les lettres, il aimait répondre aux lettres. Donc, on a vu plusieurs lettres. On a vu la lettre, la petite fille de l'argent de poche, des cartes postales qu'on a tous envoyées quand on était petits à nos parents, ou à nos frères et sœurs, ou à nos cousins, pour dire, donner des nouvelles. Voilà, tout va bien, je suis en colonie de vacances, etc. Il y a le mot d'excuse, d'ailleurs déjà le goût du mensonge. Hein. On voit le petit Léo Doinel qui écrit un mot et qui, évidemment, fait des ratures, puisqu'il recopie le mot de son ami René. René, dans les 400 coups, c'est l'équivalent d'Antoine de Robert Lachenay dans la vie. Donc il imite, il copie, et il se rend compte qu'il a écrit René au lieu d'écrire Antoine. Bon, c'est donc, les mots sont déjà un petit peu, et ça c'est très important pour comprendre le cinéma en général, et le cinéma de Truffaut en particulier, que les mots sont à la fois parfois des mots de vérité, mais aussi des mots de mensonge. On peut tricher avec l'écriture, on peut tricher avec les mots, on peut faire semblant ou recopier des choses. Évidemment, les lettres d'amour qui sont l'élément le plus, comment dire, le plus sacré de Jules et Jim, quand on voit Jeanne Moreau qui écrit à son amant une lettre enflammée, c'est Jules et Jim, le roman d'Henri-Pierre Rocher. Je vous montrerai tout à l'heure une lettre d'Henri-Pierre Rocher à Truffaut, manuscrite, bon, qui fait partie des archives de Truffaut. Il y a la lettre de rupture, il y a tout type d'écriture et d'usage des mots qui ont un sens en fonction des sentiments, en fonction des relations humaines entre l'homme et la femme, l'enfant et les parents, l'enfant et la famille. Dans La Chambre verte, vous voyez Nathalie Baye qui écrit à Julien Davenne, qui est interprété par Truffaut lui-même, une vraie lettre d'explication qui se termine par « Je vous aime ». Bon, vous avez dans L'homme qui aimait les femmes, est pour moi un des plus beaux films de Truffaut, sans doute un des plus forts, un des plus cohérents, qui est tourné à Montpellier et à Béziers. Montpellier, on voit Charles Denner, qui est un acteur éminemment truffaldien, qui ressemble beaucoup à Truffaut physiquement, la taille, le côté brun, fiévreux, cette espèce de fou, de fièvre dans le regard et dans la voix. Il écrit son roman. Il est complètement obsédé par les mots et pour raconter sa vie. Et puis, il se souvient de lui, comme je disais tout à l'heure, dans son adolescence, les lettres d'amour que sa mère envoyait à son amant et le rôle que sa mère lui faisait jouer de postier. C'est-à-dire, comme il n'existait pas à ses yeux, elle s'en servait uniquement pour aller poster les lettres. Et lui, évidemment, les détournait, les lisait et ne les envoyait pas, surtout. Donc, vous avez... Et puis, à la fin de l'extrait qu'on a vu... La lettre d'amour d'Adèle H, qui est d'une lettre là aussi, Isabelle Adjani, qui est un personnage magnifique dans l'histoire d'Adèle H, qui écrit des lettres à un homme qui ne s'intéresse absolument pas à elle. Voilà, donc on a un cas de figure là qui est très truffaldien dans ces films, qui au fond renvoie à l'idée fixe, c'est-à-dire un personnage a une espèce d'idée fixe, en général concernant l'amour, la passion amoureuse, et qui emploie l'écriture, les mots, le goût des mots, la force des mots, en toute, comment dire, avec une velléité romanesque incroyable, mais sans échange, sans dialogue, sans retour. Voilà, c'est des lettres qui partent et qui n'ont pas de récipiendaire, qui n'ont pas de retour. Donc Adèle H, le personnage d'Adèle H, si vous avez en souvenir, en mémoire le film, c'est voilà, ce personnage fougueux, plein d'amour, de passion, d'idées fixes pour le lieutenant Pinson, qui dans la rue ne la regarde même pas, qui est absolument pas concerné par l'amour qu'elle lui porte, l'amour absolu, exclusif qu'elle porte à ce personnage. Voilà, c'est un film sur l'obsession amoureuse, comme souvent les films de Truffaut, mais où l'expression par l'écriture, par la déclaration, hein, la déclaration d'amour, reste en suspens, sans retour. Voilà. Et puis à la fin, le dernier extrait, bon, mais il y en aurait d'autres dans son œuvre, c'est L'enfant sauvage, qui porte bien le titre porte bien ce qu'il veut dire, L'enfant sauvage, d'un film de Truffaut en noir et blanc, très important, qui a énormément eu de succès dans le monde, sauf peut-être en France, où il était assez mal pris quand il est sorti, parce qu'il est sorti en 1969, juste après les événements de 68, et où on était tous, moi je me souviens, j'étais jeune étudiant, on était tous en train de contester l'école, l'université, le savoir, les professeurs, les mandarins, et Truffaut nous faisait un film, lui, pour dire le contraire, en gros. C'est très important. Truffaut, qui était autodidacte, hein, vous l'avez, il a eu à peine son certificat d'études, donc c'est vraiment un autodidacte, hein, quelqu'un qui n'a pas eu de scolarité pleine et réussie, qui vraiment s'est constitué lui-même en dehors, par l'école buissonnière, par son talent propre, son goût de l'écriture, je vais en parler tout à l'heure, de la critique d'abord, puis d'écrire des films, faire des films, avec des gens qui vont l'aider à réussir, hein, des passeurs, des gens qui ont joué un rôle très important dans sa vie, je donnerai des noms, bien sûr. Truffaut fait l'enfant sauvage, où il se donne à lui-même le rôle du professeur Itard, donc il veut pas qu'un acteur soit à sa place, il veut être directement en prise avec cet enfant sauvage, qui est un enfant qu'ils ont été trouvés, cherchés avec son assistante Suzanne Schiffmann, qu'ils ont trouvé dans les Corbières, autour de Nîmes. C'est un enfant gitan, c'était le neveu de Manitas del Plata, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce grand guitariste gitan, magnifique. Donc le petit Jean-Pierre Cargol, qui joue l'enfant sauvage, effectivement est un garçon sauvage, comme il a effectivement existé des enfants sauvages au XIXe siècle. Tout ça est documenté, c'est parti d'un livre, d'une histoire vraie, etc. Dans l'Aveyron, cet enfant ne sait rien du langage, quoi. Il n'a absolument accès à rien, et le professeur Itard, qui est joué par François Truffaut, qu'on passe son temps à transmettre à cet enfant sauvage le béaba du langage, c'est-à-dire les mots, les lettres de l'alphabet, constituer son prénom, Victor, V-I-C-T-O-R, donc l'enfant recopie, c'est toi Victor, donc le lien entre le mot et l'identité, le moi, le sujet même. Donc Truffaut, voilà, prenez complètement à contre-courant l'époque 68 et post-68, où on contestait, disons, le savoir, les professeurs, les gens qui savent, parce que tout le monde voulait n'en faire qu'à sa tête. C'était une période assez gaie, d'ailleurs. Moi, j'ai un souvenir plutôt gai de cette époque. Mais où, voilà, on contestait cette idée que les parents, les professeurs, les maîtres avaient des choses à nous transmettre. Truffaut dit le contraire. Il dit, c'est bien, ça c'est fondamental, par rapport à notre propos sur les mots, sur l'écriture, sur le goût d'apprendre, que c'est très important de transmettre aux enfants les rudiments pour que après l'enfant se débrouille avec lui-même, avec son langage, le langage, l'identité, la vie, le sujet, voilà, bon, qui est quand même un des grands messages de l'œuvre de Truffaut. Donc, point 2, Truffaut épistolier. Truffaut a écrit toute sa vie. Le goût des lettres, lettres d'enfant, lettres d'adolescent. Il devient critique de cinéma, il écrit énormément, dès le début des années 50. Il est encouragé par l'homme qui l'a sans doute le plus aidé au monde, à l'époque où il est en difficulté lui-même dans la vie. Il a fait une bêtise, il a voulu se suicider, il a voulu s'engager dans l'armée fin des années 40, début des années, oui, fin des années 40. 48, 49, 50, à l'époque où il y a la guerre d'Indochine, il se retrouve prisonnier, il se retrouve soldat français en Allemagne, dans les troupes d'occupation en Allemagne. Il est très malheureux au service militaire, il fait de la prison militaire, enfin bon, tout ça se passe très très mal, ce sont des années vraiment de vraie souffrance. Il reçoit l'appui d'un homme qui a énormément compté dans sa vie, qui s'appelle André Bazin. André Bazin était un critique de cinéma très important dans les années d'après-guerre, qui écrit dans plusieurs journaux, revues, qui travaille à Peuple et Culture, qui est une association très importante à cette époque de transmission de la culture dans le milieu associatif, le milieu ouvrier, les usines, les bureaux, animation de ciné-club, comme cela se faisait beaucoup dans l'après-guerre. Hein, on fait vraiment, le cinéma est un est un, non seulement un art, mais c'est surtout après les périodes de, où pendant la guerre on a eu l'interdiction de découvrir des films américains, donc à la libération, c'est vraiment la libération aussi des écrans. Les films américains reviennent, on découvre des films qu'on n'a jamais vus, comme Citizen Kane, comme Autant en emporte le vent, qui était interdit pendant l'occupation, qui a été découvert après l'occupation, à la libération de la France. Donc André Bazin passe son temps à montrer des films dans les ciné-clubs ouvriers, dans les ciné-clubs étudiants, au Quartier Latin, etc. Et Truffaut participe très jeune, il a 15 ans, 16 ans. Il vient dans les ciné-clubs parce qu'il a la passion du cinéma, il veut être vraiment là, aux premières loges. Il va lui-même créer un ciné-club à 16 ans, le cercle Cinéman avec son copain Robert Lachenay. Ça va très mal se terminer parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils promettent à leurs spectateurs des films, des copies qu'ils n'ont pas. Donc il fait des dettes, son père vient le chercher, l'amène en prison, au commissariat. Le commissariat le met dans un centre de délinquants pour mineurs. Voilà, ça c'est l'enfance de Truffaut, l'adolescence de Truffaut. Puis après, il sort, il s'engage pour l'armée, ça se passe très mal, et Bazin va le sauver. Voilà. André Bazin, qui est une personnalité extrêmement éminente et généreuse, se prend de sympathie pour ce jeune homme, dont il voit qu'il a du tempérament, mais surtout du talent, de la passion, de la fougue, et va le sortir de cette mauvaise passe dans laquelle Truffaut est enfermé, et il va le recueillir chez lui, à Bry-sur-Marne, avec sa femme, Jeannine Bazin, une femme remarquable, qui est morte il y a quelques années. Bazin, c'est important que vous sachiez, c'est un homme très bon, mais fragile de santé, qui a la tuberculose, et qui va mourir le 10 novembre 1958, à 40 ans. Et le 10 novembre 1958, c'est le premier jour de tournage des 400 coups. Donc pour Truffaut, c'est à la fois le premier jour de tournage de son premier long-métrage, mais c'est aussi... un jour de deuil, puisqu'il perd en fait son père spirituel, celui qui l'a vraiment recueilli, aidé, etc. Bon, j'en viens au sujet, ça fait partie du sujet, mais le sujet, c'est que Truffaut se rend compte, au contact de Bazin, que Bazin est un critique magnifique, qui écrit dans Le Parisien, vous voyez, Le Parisien, c'est un quotidien, qui écrit dans Les Temps modernes, qui écrit dans des revues... de citer le bulletin de ciné-club, et qui va fonder en 1951 les Cahiers du cinéma, la fameuse revue qui existe encore, dans laquelle j'ai passé beaucoup de temps, j'ai passé presque 25 ans de ma vie. Bazin crée les Cahiers du cinéma avec Doniol Valcroze, qui est un homme formidable, qui était génial, que j'aimais beaucoup, et Truffaut va écrire ses premiers écrits, ses premiers textes critiques, encouragés par Bazin, dans les Cahiers du cinéma. Donc, les mots, l'écriture, la pensée, la réflexion sur le cinéma, Truffaut, jeune homme, forge cette culture, ce goût du cinéma, ce goût aussi de la polémique. C'est très important chez lui, la polémique, l'attaque. C'est un rebelle, il est contre le cinéma français de l'époque, il est vraiment très, très en bagarre avec le système établi du cinéma de l'époque, hein, début des années 50. Il va trouver une tribune importante dans les Cahiers du cinéma. Et il commence à écrire en 1953, et ce qui est important que vous sachiez, c'est qu'il a 21 ans, donc c'est vraiment un jeune homme. Il a trouvé déjà sa voie. Il a erré beaucoup. Il avait 2-3 boussoles, je l'ai dit, l'amour de la littérature, il va lire énormément de livres, il a une culture, il est très cultivé, mais une culture sauvage, culture autodidacte. Et puis il a l'amour du cinéma avec son copain, il fréquente tous les ciné-clubs de Paris, il va dans les salles, il se débrouille pour aller voir les projections de presse qui existent aujourd'hui, ce qu'on appelait les projections professionnelles. Il se fait faire une carte fausse ou vraie d'ailleurs, comme s'il était un professionnel critique. Donc il va le matin dans les séances réservées à la presse professionnelle sur les Champs-Élysées. Il a 17 ans à peine, il est très sérieux, il prend ça très au sérieux. Voilà. Il fait des mots, il triche s'il le faut, il emploie tous les moyens qui sont à sa disposition pour parvenir à son but, qui est d'être pris au sérieux comme quelqu'un qui veut entrer dans le cinéma coûte que coûte, alors que son seul bagage, c'est son talent, c'est sa passion, c'est son érudition, c'est sa boulimie, c'est son style aussi. Voilà, les mots, l'écriture, le style, c'est très important chez Truffaut. Et très vite, il va se faire une personnalité. Et le paradoxe, c'est que très vite, il va écrire un texte retentissant. Donc, il va se servir des mots et de l'écriture
pour attaquer le cinéma français frontalement. C'est un texte qui est très long, on a les brouillons à la Cinémathèque, parce que dans les archives, il y a les brouillons, il y a plusieurs phases d'écriture. Bazin lui fait réécrire souvent, parce que Bazin est un peu désarçonné par l'agressivité de Truffaut. Donc Bazin lui demande de corriger, d'amoindrir la portée négative de ce texte de Truffaut. Truffaut va écouter Bazin, il va retravailler son texte, il va le donner à Bazin et Doniol Malcroze, et Bazin et Doniol Malcroze, qui sont rédacteurs en chef des Cahiers Schéma, ne refusent de le publier parce qu'ils le trouvent trop violent. Ils le mettent dans un tiroir. Truffaut va insister. Le texte finit par paraître dans les Cahiers du cinéma. Nous sommes en janvier 1954, donc Truffaut a même pas 22 ans. Le texte s'appelle « Une certaine tendance du cinéma français ». C'est un texte très long, très écrit, très mature, on va dire, pour un jeune homme, et dans lequel Truffaut attaque vraiment le cinéma français des scénaristes de l'époque. Tous ces scénaristes, ça se focalise sur quelques noms, mais qui sont des gens, par ailleurs, qu'on peut estimer au vu de leur œuvre entière, mais pour qui Truffaut nourrit une certaine agressivité intellectuelle et esthétique. Les deux noms les plus marquants, c'est Orange et Bost, qui sont deux scénaristes très en vogue à l'époque, dans les années 50, qui sont les spécialistes de l'adaptation des grands romans du 19e au cinéma, Le Rouge et le Noir, entre autres, et beaucoup d'autres. Et pour Truffaut, ces gens-là sont vraiment des littéraires qui se servent du cinéma pour encourager leur goût de la littérature, alors que Truffaut est un adepte du cinéma, de l'écriture cinématographique proprement dite. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais je ne vais pas m'étaler, ça serait un sujet à part. Mais donc Truffaut publie, voilà, ce texte paraît dans les Cahiers du cinéma et ça fait une onde de choc retentissante. C'est-à-dire toute la critique est ébranlée, Bazin est attaqué, parce que dans ce texte, Truffaut attaque des cinéastes pour lesquels Bazin a une certaine estime, voire. Donc Truffaut apparaît comme une espèce de trublion, de jeune voyou, quoi, qui se permet d'attaquer des gens importants comme René Clément, comme Jean Delannoy, bon, un cinéaste dont on pourrait discuter aussi le talent. Enfin bon, René Clément, c'est pas n'importe qui, et beaucoup d'autres. Yves Allégret, les frères Allégret, Yves Allégret, Marc Allégret, et beaucoup d'autres. Et ce texte va vraiment faire comme une bombe dans le milieu critique et va faire la célébrité de Truffaut. En fait. Truffaut, à 22 ans, devient une personnalité, tout le monde se l'arrache, quoi. Tout le monde a envie de savoir qui est ce jeune homme qui se permet d'être aussi virulent, d'employer des mots aussi violents pour attaquer le cinéma français que tout le monde respecte et vénère ou critique, mais là, il emploie vraiment la manière forte. Et de là, Truffaut va être approché par un homme important qui s'appelle Jacques Laurent. Jacques Laurent, c'est le patron d'un hebdomadaire qui s'appelle, à l'époque, dans les années 50, Art et Spectacle, Art, un grand hebdomadaire culturel de droite, pour lui proposer la chronique cinématographique. Donc Truffaut accepte. Donc Truffaut, voilà, il est boulimique, il veut travailler, il veut écrire, il veut exercer son travail d'écrivain de cinéma, de critique, qui va accepter la chronique hebdomadaire dans Art, dans le journal dans lequel il va publier plusieurs centaines d'articles en cinq ans, jusqu'en 1958, ouais, où il va se servir d'Art comme une espèce de tribune, mais extrêmement virulente, soit pour défendre des cinéastes qu'il aime beaucoup, parce que c'est l'envers de ce que je disais jusqu'à présent, c'est que Truffaut déteste certains cinéastes, mais il en adore d'autres, il en admire d'autres. Et je vais vous citer quelques noms, parce que c'est des noms qui vont structurer aussi beaucoup la vie et l'œuvre de Truffaut. Il admire évidemment Jean Renoir, avec lequel il va avoir une relation d'amitié et de fidélité jusqu'à la mort de Jean Renoir en 1980. Alfred Hitchcock. Hitchcock devient un cinéaste hyper admiré par Truffaut, mais admiré et défendu, non pas comme ce qu'on disait à l'époque, le maître du suspense, mais un grand cinéaste un grand inventeur de formes cinématographiques, et donc très vite, Truffaut va rencontrer Hitchcock, l'interviewer pour les Cahiers du cinéma et se bagarrer avec ses copains de la future Nouvelle Vague, Romère, Chabrol, Godard, pour imposer Hitchcock comme un grand cinéaste et pas simplement comme un grand technicien du cinéma. Et ça, ça va être une bagarre très forte dans les années 50. Et cette bagarre va continuer, va se poursuivre, puisque je fais un lien avec un livre que vous connaissez peut-être, ce qui est les plus anciens d'entre vous. Enfin, c'est un livre qui, moi, a été extrêmement important dans ma jeunesse, qui s'appelle... qui a eu deux titres. Le premier titre, c'était « Le cinéma selon Hitchcock », 1966, sur Robert Laffont, un très beau livre carré, plein de photos. Et puis après, c'est devenu « Hitchcock-Truffaut ». C'est un livre d'entretien, paru en 1966, et puis plusieurs fois après réédité, amendé, avec des chapitres nouveaux, dans lequel Truffaut interview Hitchcock pendant des heures et des heures sur toute son œuvre. Et cet entretien, Truffaut le fait en 1962 à Los Angeles, à Universal, les studios américains. 1962, Truffaut a 30 ans, il a déjà fait 3 films, donc c'est plus un critique, c'est un jeune cinéaste. Il vient voir le maître Hitchcock, qui a 63 ans à l'époque, qui vient en train de terminer un film important, The Birds, Les Oiseaux. Hitchcock accepte d'être interviewé pendant une semaine entière. Et en fait, Truffaut fait ce livre parce qu'il s'est rendu compte en allant aux États-Unis la première fois en 1960, présenter Les 400 coups d'abord, puis Tirer sur le pianiste, ses deux premiers films, que les Américains, les critiques américains, méprisent Hitchcock. Et lui qui a adoré Hitchcock, qui l'a rencontré, qui est persuadé que c'est sans doute l'un des plus grands, sinon le plus grand cinéaste en activité, veut montrer aux Américains que voilà qu'ils se trompent. Il a vraiment une envie de les convaincre. Et il y parvient, puisque ce livre va être extrêmement important quand il va paraître en 1966 en français, puis en anglais, simultanément, et puis réédité tout au long des années 70 jusqu'à la mort de Truffaut, puisque quand Truffaut est mort en 1984, il était en train de finir la nouvelle version du livre, avec une nouvelle préface, avec un chapitre additionnel. Donc ça a été un combat de toute sa vie, à la fois de manifester l'admiration qu'il a pour Hitchcock, mais aussi de transmettre de façon pédagogique aux Américains l'apprentissage d'une œuvre entière. J'ai cité donc les autres, donc, Renoir, Hitchcock, Rossellini, qui va être essentiel, Roberto Rossellini, essentiel dans la vie de Truffaut. Truffaut l'admire, va devenir son secrétaire pendant une année en 1955, secrétaire particulier de Rossellini, va passer un an à ses côtés. Rossellini est un cinéaste qu'il admire énormément, qui à l'époque est marié à Ingrid Bergman, mais la rupture va bientôt arriver, qui est mal aimé dans son pays en Italie, qui vient souvent à Paris, donc il rencontre les jeunes gens, Rivette, tout ça, et qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit « faites des films ». Si Truffaut fait des courts-métrages, si Rivette fait des courts-métrages, si Godard fait des courts-métrages, c'est parce que Rossellini leur dit « allez-y, n'ayez pas peur de la technique, que vous soyez amateur, ça n'a aucune... c'est pas grave du tout, ce qui compte, c'est faites des films, racontez vos histoires, racontez votre vie, faites des films personnels. » Et c'est ce que tous ces gens vont faire, ce qui va devenir la Nouvelle Vague. Donc voilà, Rossellini, très important. Max Ophüls, connaissez, Lola Montes, correspondance Truffaut-Ophüls, très importante. Jacques Becker, cinéaste magnifique. Vous connaissez les films de Jacques Becker. Le dernier, c'est Le Trou, 1960, mais vous connaissez le film Casque d'or, vous connaissez les films de Rendez-vous de juillet, Édouard et Caroline et autres. Voilà, admiration pour Jacques Becker et beaucoup d'autres. Donc Truffaut a des admirations, Bresson bien sûr, il va sur les tournages de Bresson, il écrit des articles dans Art, il défend Bresson, il défend les cinéastes qu'il admire, et puis il attaque ceux qu'il n'aime pas. C'est vraiment un moment extrêmement important. Donc Truffaut écrit des lettres à tous ces gens. Il y a une correspondance avec tous ces gens. Je le savais, j'ai passé des mois, des jours, des mois, des semaines dans les archives de Truffaut, et j'ai encore découvert récemment de nouvelles archives que sa première femme m'a fait découvrir, des lettres à Cocteau, Jean Genet, Henri-Pierre Rocher, Jacques Audiberti. Je ne sais pas si vous connaissez Jacques Audiberti, dont on fête le cinquantenaire de la mort actuellement, mort en 65. Grand écrivain, grand dramaturge, grand poète, pour qui Truffaut a une admiration sans borne. À tel point que, on revient au mot là, Truffaut, quand il rentre au cahier, prend les cahiers en main. En fait, il a 22 ans, 23 ans, il en devient presque le chef, l'animateur. Et en 53, 54, il demande à Jacques Audiberti d'écrire une chronique tous les mois dans les cahiers du cinéma. Et Audiberti va lui dire d'accord, je une chronique tous les mois pour l'admiration, le respect, l'amitié, la. Voilà. Ce jeune homme, un peu freluqué, un peu jeune, un peu malingre, a une telle passion pour le cinéma, pour l'écriture, pour le goût des mots, enfin, puisqu'on est dans ce festival autour du mot, c'est vraiment essentiel à dire, va convaincre Audiberti de rendre au cahier une chronique par mois. Et ça va durer jusqu'en 1956. Audiberti va écrire des textes sublimes dans les cahiers du cinéma sur les films qu'il voit autour de l'amour, de la passion, des femmes, etc. Le goût des femmes. Et au cas où vous ne le savez pas, mais voilà, c'est typique. Il y a un roman de Jacques Audiberti qui s'appelle Marie Dubois. Or, Marie Dubois, c'est aussi une actrice. C'est l'actrice de Truffaut dans Tirer sur le pianiste et dans Jules et Jim, elle a un rôle. Or, Marie Dubois, c'est son nom d'emprunt. C'est Truffaut qui a dit à cette jeune femme, qui s'appelait Claudine Huzet, vous allez vous appeler Marie Dubois, c'est plus joli. Et elle accepte. Marie Dubois, c'est un nom d'emprunt à une œuvre de Jacques Audiberti. Donc, la correspondance, incroyable. Truffaut a nourri cette correspondance avec tous ces gens. Je pourrais citer aussi Red Bradbury, avec lequel il a écrit, je sais pas, une soixantaine de lettres échangées entre Bradbury et Truffaut, puisque Truffaut va adapter un livre qui s'appelle Fahrenheit 451 de Bradbury pour en faire un film en 1966. Et vous savez que dans ce film, Ray Bradbury ne parle que de la littérature et des autodafés, des livres que les pompiers brûlent parce que ce sont des livres interdits et que c'est pas simplement que le livre en lui-même est interdit. Donc quiconque dans son foyer un livre sera non seulement suspect mais accusé. Et on voit dans le film, très beau film de Truffaut, des gens, des gens qui cachent des livres dans les téléviseurs, dans les appareils de cuisine et autres, et puis qui se font arrêter, on brûle les livres sur la place publique. Ça est quelque chose qui a existé, vous le savez, sous le nazisme, mais qui peut très bien exister aujourd'hui encore, puisqu'on est dans une période assez trouble, comme vous le savez, et qu'il y a des choses qui peuvent encore se reproduire de ce genre-là, soit l'interdiction d'un film, d'un livre ou d'une pièce de théâtre, parce que ce livre, cette œuvre peut gêner telle ou telle, non pas religion, mais vision extrémiste d'une religion ou d'une autre. Voilà. Donc j'ai dit le goût de la correspondance chez Truffaut, donc le goût des mots, et il écrit manuscrit. On va peut-être montrer un peu des choses, si Léo veut bien envoyer un peu des documents. Voilà, ça c'est typique Truffaut qui écrit, alors on est en 45, vous voyez. 1945, il est en vacances à Binic, Truffaut, et il envoie à son ami Robert Lachenay, et vous voyez l'expression « je sais vigne, tu sais vigne ». Voilà. Vous voyez, donc là, les mots sont des mots inventés, mais des mots qui viennent de la littérature, du goût de la littérature. Écris-moi. C'est-à-dire que vraiment, les mots, c'est la substance même de la vie, de la façon de vivre la passion, l'amitié comme passion, et surtout la peur de la solitude, de l'isolement dans l'enfance. Dès l'enfance, 45, il a 13 ans. Il y a cette correspondance Truffaut-Lachenay, la famille Truffaut, il y a très peu de temps, me l'a donnée, enfin pas à moi, mais à la Cinémathèque. Donc c'est une soixantaine de lettres et de cartes postales, donc qui ont une valeur évidemment extrêmement sentimentale. Parce qu'à l'époque, Truffaut n'est pas François Truffaut, c'est un jeune garçon qui s'appelle François. Mais vous voyez, la famille nous a fait confiance, donc on a un fond Truffaut magnifique. Cher Robert, voilà, la tour Eiffel, voilà, l'écriture de Truffaut. Hein. Et vous voyez que Félicie Nanteuil, voilà, la littérature est tout le temps dans les lettres, les classiques, les Fayard, le goût des livres. Alors ça, c'est une lettre importante dans laquelle Truffaut raconte une soirée au cours de laquelle il a eu une histoire d'amour qui a mal tourné. Et il y a Claude Mauriac, grand critique de cinéma. Scherrer, c'est Romer, hein, Éric Romer. Alexandre Astruc, qui est toujours en vie, grand cinéaste. Jacques Bourgeois, grand spécialiste de la musique. Donc il cite les noms qui étaient là, donc il est un jeune homme, et il compare la scène avec la règle du jeu de Jean Renoir, les intrigues et tout. Et puis, voilà, et cette jeune femme dont il est amoureux, Liliane, qui est une femme qui a beaucoup compté dans sa vie de jeune homme, parce qu'elle s'est refusée à lui, il va le matin, voilà, ça tourne mal, et il va tenter de se couper les veines. On ne sait pas si c'est une vraie tentative de suicide ou une espèce d'épisode romanesque, comme ça, un peu de sa propre vie amoureuse. Le fait est qu'il prend une décision grave, et c'est de quitter, de s'enrôler pour l'armée. Voilà, il se taillade le bras. Voilà. Il faisait Jurieu, donc il se compare à des personnages. Jurieu, c'est un personnage de la règle du jeu, évidemment, de Jean Renoir. Vous voyez, donc, chez Truffaut, la comparaison entre sa propre vie et celle des héros dont il aime l'imaginaire et le roman est tout le temps, voilà, est permanente. Il y a toujours cette idée de si on vit sa vie comme on la vit dans les romans, comme on la vit dans les films qu'on aime, voilà. Se comparer soi-même à un personnage de roman ou de livre qu'on adore. Donc voilà, l'écriture, Truffaut. Ça, c'est une lettre, juste avant, pardon. Ça, c'est une lettre de Jean Genet, vous voyez, Jean Genet. Truffaut tombe sur le journal du voleur, il est abasourdi par le livre de Genet. Et il arrive à entrer en correspondance avec Jean Genet, qui va l'aider, à l'époque où Truffaut est en prison militaire. Jean Genet vient le voir, lui envoie des romans à lire. Il y a une amitié qui naît entre Genet et Truffaut, qui est assez émouvante. Voilà, Jean Genet est un rebelle, lui aussi, comme vous savez, un écrivain extrêmement... Donc voilà, les lettres, tout ça, on en a des centaines dans les archives de Truffaut. Ça, c'est une revue, pareil, de droite, hein, de droite, dans laquelle Truffaut va écrire pas longtemps, mais il est pris comme ça par... il est tenté par cette espèce de Paul Morand, Paul Léoto. Il adore Paul Léoto, hein, c'est un de ses écrivains les plus aimés, admirés. Il va même vouloir adapter Paul Léoto. Donc voilà, c'est l'écriture, le Truffaut. Et là, on est en 55, il a 23 ans, c'est vraiment un tout jeune homme. Oui. Mais il a un talent, il est reconnu comme ça, par son talent d'écrivain, surtout son irrévérence par rapport aux institutions, au goût dominant, si vous voulez. Il est pas comme les autres. Voilà, ça c'est une très jolie lettre d'Henri-Pierre Rocher. Donc on est en 56, hein, 56. Truffaut est critique de cinéma au Cahier du cinéma et à Arles, et Henri-Pierre Rocher remarque dans un texte sur un film américain quelconque, Truffaut a rendu hommage à Jules et Jim. Donc on est très loin du Truffaut cinéaste, on est 4 ans, 5 ans avant le tournage de Jules et Jim, mais voilà. Et j'espère que vous... Truffaut parle de Jules et Jim, mais grâce à une morale esthétique et neuve, sans cesse reconsidérée, j'espère que vous la retrouverez encore plus dans le Deux Anglais et le Continent que vous allez recevoir. Évidemment, Henri-Pierre Rocher va mourir assez vite, je crois en 58, il me semble, je ne suis pas sûr de la date, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne sait pas que Truffaut va adapter les deux romans essentiels de Rocher. Il en a fait un troisième, Victor, mais c'est-à-dire Jules et Jim en 61 et Deux Anglais et le Continent 10 ans plus tard. C'est-à-dire qu'au fond, Truffaut et Rocher se sont rencontrés, connus épistolairement, puis rencontrés à Meudon, où habitait Henri-Pierre Rocher, parce que Truffaut a cité ce roman, Jules et Gilles, dans une critique dans Art, et que Rocher l'a remarqué. Donc ça lui a fait plaisir, parce que Jules et Gilles, le roman célèbre, rendu célèbre par le film de Truffaut, a été un échec total quand il est paru chez Gallimard, dans les années 50, au milieu des années 50. Donc vous voyez, et ça, dans les archives, il y a quelques lettres, 4 ou 5 lettres de Rocher. Voilà, ça c'est une lettre de Cocteau, vous reconnaissez l'écriture de Cocteau. L'amitié entre Cobret, avec la signature, la fameuse signée, Jean, l'amitié, l'admiration, l'adoration qu'il y a entre les deux hommes est incroyable. Mon François, ton film est un chef-d'œuvre, une manière de prodige, et je t'en prie. Mon François, vous avez peut-être tous vu les photos de Truffaut, Jean-Pierre Léaud, à Cannes, en mai 1959, quand Truffaut est porté, et surtout le petit Léaud est porté à bout de bras, après la projection des 400 coups au Festival de Cannes, Jean Cocteau est là, c'est comme une espèce de protecteur, c'est lui qui protège Truffaut, qui est tout timide, parce que c'est son premier film, il a peur d'être massacré, puisqu'il a lui-même massacré beaucoup de films en tant que critique, et Cocteau est un peu son ange protecteur, c'est vraiment... Donc, beaucoup de lettres entre eux, de très belles lettres qui font partie des archives de François Truffaut, parce que Truffaut, je vous l'ai dit, était non seulement un épistolier, adorait correspondre, mais gardait tout. Ça, c'est l'autre aspect de Truffaut dont je voudrais vous dire quelques mots, c'est que Truffaut était obsédé par tout, il gardait tout. Ce qui fait que quand j'ai coécrit cette biographie, bien après sa mort, j'avais la chance d'avoir la confiance de sa première femme et de ses filles. Je suis entré dans une pièce, dans les bureaux qu'il occupait, les films du Carrosse, sa société, et dans cette pièce, il y avait toutes ses archives. Donc, si vous voulez, c'est pas... Je dirais que je ne sais pas s'il espérait qu'il y ait un jour une biographie sur lui, je ne suis pas sûr, mais ce qui est sûr, c'est qu'il avait l'obsession de l'archive, de tout garder, de tout classer, tous, non seulement cette correspondance avec les multiples personnalités avec lesquelles il a correspondu, mais aussi... ses scénarios, ses notes de production, ses factures de costumes, ses notes médicales et autres. Alors, ça, c'est... Je ne sais pas qui est cette lettre. Ça, c'est une lettre à Isabelle Adjani. Donc, ça, c'est pendant le tournage. Non, c'est là où il est convaincu qu'il veut Adjani. Alors, il veut Isabelle Adjani pour jouer le rôle d'Adjani, d'Adèle Haj. Adjani, à l'époque, a 20 ans, elle est pensionnaire de la Comédie-Française, elle n'a pas le droit de faire ce film. Il va se battre, et elle aussi, pour convaincre Pierre Dux, qui est l'administrateur de la Comédie-Française, de laisser Adjani faire ce film. Elle a 20 ans, elle va faire ce film, qui, elle le dit maintenant, et sans doute le film qui a le plus compté dans sa vie, même si elle a fait La Gifle et des films qui ont eu énormément de succès. Pour elle, la rencontre avec Truffaut a été très, très importante. Je vous dirais aussi que Truffaut est tombé fou d'amour pour elle, et que cet amour est resté au stade le plus platonique, parce qu'elle s'est refusée à lui, mais ça a été une passion d'avoir cette jeune fille sublimement belle dans un rôle aussi... habité qu'est celui d'Adèle Haj. Bon, voilà, une lettre à Isabelle Adjani. Il y a d'autres lettres, mais c'est vraiment un échantillon. J'ai fait ça très vite. Je voulais absolument vous montrer la matière même des mots. Les mots, c'est de la matière, c'est l'écriture, c'est le style, c'est la signature. Certaines lettres sont manuscrites. Ce sont en général les plus intimes, les plus personnelles. Certaines sont tapuscrites parce que Truffaut tapait à la machine avec deux doigts, ou avait un secrétariat très, très au point pour taper ses lettres, et souvent il rajoutait un petit mot, mais la lettre manuscrite, c'est une lettre intime, c'est comme une empreinte digitale, il disait souvent ça. Écrire une lettre, c'est parler de soi à soi, vraiment, dans ce que ça peut avoir de plus intime. Ça, c'est un journal de tournage de Fahrenheit, pendant tout le tournage de Fahrenheit, qui est le seul film que Truffaut a réalisé en anglais, en langue anglaise. Truffaut était très mauvais en anglais. Il a tourné à Londres, dans les studios de Pinewood à Londres. Il a décidé d'écrire son journal de tournage et de le publier dans les Cahiers du cinéma en 1966. C'est un journal de bord magnifique où il raconte ses difficultés, ses angoisses, ses relations avec les acteurs. Entre autres, ça a été un tournage très difficile avec son acteur principal, avec lequel il a déjà tourné dans Jules et Jim. Et ça se passe très mal avec l'acteur autrichien Oscar Werner, qui est magnifique par ailleurs, mais il se bagarre tout le temps. Voilà. Et donc vous voyez l'écriture, le journal, le jour, le soir, les références à d'autres films, Sternberg, Lotte Eisner, Lubitsch, Ophuls, Stroheim. Voilà, il est dans le cinéma, lui-même plongé voilà, et faisant un film, il pense à tous les cinéastes qu'il admire, il pense à tous à des plans, à des scènes de films qu'il a vus, revus, sur lesquels il a écrit. Il est lui-même totalement imprégné de cet amour, de cette passion du cinéma. Voilà. Donc voilà un document écrit, on a la chance de l'avoir, évidemment. C'est l'original et c'est pour nous une source de fierté d'avoir ce fonds d'archives Truffaut qui est extrêmement consulté par les jeunes, les étudiants. Ça, c'est un carnet, vous voyez, une feuille. Là, il est sur le tournage du film de Steven Spielberg en 1976 aux États-Unis, Rencontre du troisième type. Il est en train d'écrire un scénario qui s'appelle Le Cavaleur qui va devenir L'homme qui aimait les femmes, qui est le premier titre. Steven Spielberg, hôtel, explique scénario et personnage Lacombe, lui c'est Claude Lacombe dans le film Truffaut, demande pourquoi j'ai divorcé, il veut humaniser Lacombe, plus tour de magie, personnage mystérieux mais humanisé, ouais, c'est des mots. Donc il prend des notes tout le temps, il écrit, il a besoin d'écrire, il a besoin des mots, il a besoin de faire des lettres. Il écrit en même temps qu'il tourne le film, il s'ennuie beaucoup parce que le tournage est très long, il y a des effets spéciaux, le tournage va durer 3 mois. Il écrit avec Susan Schiffman le scénario Le Cavaleur, donc il va tourner à Montpellier après le tournage de Spielberg. Voilà, si vous voulez, Truffaut, c'est ce que je pense profondément, c'est-à-dire que pour lui, le rapport de les mots, l'écriture, l'image, c'est ce sont des matériaux qui font alliance tout le temps dans une certaine forme d'alliance, si vous voulez. Je vais vous montrer d'autres documents si Léo veut bien. Voilà. Là, on revient sur. Ça, c'est une nouvelle, Les Saints Silicieux, qui a, je crois, été publiée. Je ne suis pas sûr que ça ait un grand intérêt. Je crois que c'est paru dans une revue littéraire. Vous voyez l'écriture de Truffaut. Ça, c'est typique. Alors, ça, c'est très important. Un roman, vous avez vous avez la page de publiée et vous avez l'écriture de Truffaut. C'est-à-dire Truffaut, avec ses scénaristes, donnait les livres. Il a acheté plusieurs exemplaires du même livre, distribué les livres à ses scénaristes, ses co-scénaristes, et raturait les livres. Voilà. Donc le livre, c'est à la fois sacré, c'est sacré pour Truffaut, l'écriture, le livre, l'objet livre, il adore les livres, il a une bibliothèque sublime, mais en même temps, le cinéma, c'est violent. C'est-à-dire le cinéma, c'est, il faut raturer, il faut souligner, il faut surligner, raturer, couper, parce que c'est jamais un rapport du roman au film, c'est jamais un rapport, c'est toujours un rapport violent, voilà. C'est un rapport de, il faut souligner, il faut aller à l'essentiel, il faut aller vers l'image, ne pas faire trop littéraire, surtout pas. L'Hôtel des Morts, qui est un livre magnifique d'Henry James, qui va être à l'inspiration de La Chambre Verte. Fahrenheit, vous voyez, raturé, voilà. Jules et Jim, Truffaut s'en sert aussi dans Les Deux Anglais, c'est-à-dire qu'avec son scénariste, Jean Gruau, puisque Jean Gruau a adapté aussi bien Jules et Jim en 60 que Les Deux Anglaises en 71, ils vont faire des espèces de passerelles entre les deux, ils vont prendre des choses de l'un pour les mettre dans l'autre, ce qui fait qu'on va... Il y a un rapport qui n'est pas strictement de fidélité à l'écrivain, mais qui est un rapport de collage, de montage, avec une certaine violence pour aller à l'essentiel. Et c'est deux films très importants de Truffaut sur le rapport amoureux, la passion amoureuse, le goût des lettres, les échanges, les deux Anglaises et le continent, c'est, j'en ai pas montré tout à l'heure un extrait, mais si vous ne l'avez pas vu, ça n'est que ça, des gens, un homme qui écrit aux deux sœurs, puisqu'il va les aimer l'une après l'autre, et à qui il envoie des lettres passionnées. Ça, c'est le document, le livre qui a inspiré L'Enfant sauvage. Donc voilà, Truffaut. Ça, c'est une préface que Truffaut écrit dans l'avion, je crois, sur un livre. Dans les avions, il écrivait avec une écriture magnifique, généreuse. C'est une écriture très lisible. Ça, c'est très important. J'ai toujours remarqué ça avec Truffaut. Il y a des gens qui ont une écriture illisible. Audi Berti, j'ai du mal à déchiffrer. Truffaut, sans doute parce qu'il est autodidacte, a une écriture ample et généreuse et ouverte au regard de l'autre. C'est-à-dire qu'il écrit pour l'autre. Il écrit pour être compris. Il n'écrit pas pour s'enfermer dans une espèce de folie personnelle. C'est très... Vous voyez, on arrive à tout comprendre. Voilà, on a un document et après, il commente. Parce que la question qu'il se pose, c'est comment passer de l'écriture, des mots écrits à l'image, au dialogue, au silence. Parce que dans les films, il y a aussi des silences, évidemment. Très important, ce truc, la brune et la blonde, même si ailleurs dans le film, vous voyez, il souligne, il donne des indications à ses scénaristes pour aller dans le sens dans lequel lui souhaite aller. Et il va être très exigeant avec ses scénaristes pour que ça aille vers le point de, comment dire, d'incandescence vers lequel il veut que le film aille. C'est très incandescent. Et ce qui me plaît, c'est les matériaux, vous voyez, c'est des livres annotés, soulignés. Vous voyez, voilà. Ça, c'est dans les archives de Truffaut. Antoine, ça, c'est synopsis d'Antoine Doinel dans les 400 coups. Ça, c'est un document, je ne sais plus ce que c'est, prière, je ne sais plus quoi. Ah, ça, c'est un scénario. Alors, ça, je vous ai dit, Truffaut a été secrétaire de Roberto Rossellini en 1955. Il a passé un an aux côtés de Rossellini. Ça, c'est un scénario de Rossellini, qui n'a jamais tourné, dicté à Truffaut. Truffaut, c'est vraiment le secrétaire. Donc, il écrit de sa main, sous la dictée, ce que Rossellini... veut faire. Et ce scénario, plus un autre, c'est deux scénarios. L'autre, c'est Carmen, que Rossellini avait en projet, qu'il n'a pas tourné. Madame Morgenstern, la première épouse de Truffaut, les a donnés. Il y a trois mois, m'a dit, je vous les donne pour la Cinémathèque française. Donc, c'est deux documents absolument originaux et exclusifs. Il n'y en a pas d'autres. Donc, ça a une valeur pour les historiens, pour ceux qui s'intéressent à Rossellini, à Truffaut. Évidemment, c'est très émouvant pour moi, parce que c'est de l'écriture de Truffaut. La décision d'Isa. L'argent de poche. Voilà, Truffaut et les livres. Truffaut, c'est un homme qui allait dans les librairies tout le temps. Il avait une librairie à deux pas de son bureau, qui n'existe plus, la librairie La Fontaine, de la rue Marbeuf et de la rue François 1er, et il allait voir les parutions nouvelles. Quand il aimait un livre, il en achetait 10 exemplaires, il l'offrait à ses amis, femmes, surtout femmes, il avait aussi des amis hommes, parce qu'il voulait partager ses goûts, ses passions. Il aimait aussi les livres anciens, il aimait Proust, il aimait les Otto, il aimait des grands écrivains qu'il a adorés, il aimait les polars américains, il a adapté Goodis, il a adapté William Irish, il a adapté évidemment des... Voilà, on en revient. Mais c'est une toute petite... un tout petit aperçu de la richesse des archives de Truffaut. Et vous voyez que dans ces archives, ce qui compte, c'est le goût des mots, quoi. C'est les mots, comme les mots, parce que les mots, c'est vrai pour nous aujourd'hui, je crois. C'est ce qui structure notre langage, notre identité, à la fois notre identité pour nous-mêmes, mais dans le rapport qu'on a aux autres, quoi. Dans l'échange qu'on a avec les autres, les êtres chers, la famille, les enfants, les parents, les gens qu'on aime, les gens qu'on aime, oui. C'est fondamental. Et chez Truffaut, ça a pris une forme à la fois, comme je vous le disais au début, autodidacte. Et irrévérencieuse, mais aussi passionnelle. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne sait jamais, qui n'aurait jamais pu se passer d'écrire et de lire. Et dans ses films même, ça je ne l'ai pas dit aussi, si vous regardez le générique des deux Anglaises et le continent, ça commence sur le livre lui-même de Henri Pierrochet. C'est-à-dire que le matériau romanesque, écrit, publié, est une matière filmée. C'est-à-dire, dans L'homme qui aimait les femmes, quand Charles Denner écrit son roman, il envoie par la poste à des éditeurs à Paris, il reçoit une lettre positive d'un éditeur, Brigitte Fossé le reçoit, elle travaille dans cette maison d'édition, elle aime beaucoup le roman, et d'ailleurs ils couchent ensemble, évidemment, parce que c'est l'homme qui aimait les femmes, il les aime toutes, il les aime toutes, non pas comme un don juan, mais comme quelqu'un, comme un cavaleur, c'est-à-dire qu'il a une passion effrénée des femmes, parce que peut-être celle qui a le plus compté pour lui, lui a manqué, sa mère en tout cas. Je voulais dire que dans le film, la fabrication du livre est aussi importante que le reste. C'est-à-dire que l'écriture, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, il écrit son roman, puis il le donne à dactylographier à une femme dont c'est le métier. Ça se faisait beaucoup maintenant, moins. Et la femme, à un moment donné, ne peut plus l'écrire tellement elle considère comme le contenu comme pas obscène, mais trop choquant, trop personnel. Et donc, il continue à écrire lui-même, à taper dans sa salle de bain, dans sa baignoire. Et le livre, on le voit se fabriquer. Et c'est elle, Brigitte Fossé, qui lui dit « Le cavaleur, c'est pas très bien, vous devriez prendre l'homme qui aimait les femmes. » Donc, vous voyez que ce goût des mots, de la littérature, de l'écriture, tout ça s'imbrique dans une espèce de logique infernale et pleine de fougue et de passion. Voilà, c'est pour ça que je voulais venir ici vous parler de la passion des mots chez Truffaut. Je ne sais pas quelle heure il est, il faut que j'arrête. La passion des mots chez Truffaut, elle est consubstantielle de sa vie et de son cinéma. Et c'est pour ça que c'est un cinéaste qui m'est très cher. Voilà. Voilà. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je vais dire un peu plus. Merci. Voilà, donc l'année dernière, j'ai fait cette exposition pour les 30 ans de la mort de Truffaut à la Cinémathèque. Et parce que ces archives, je trouvais qu'il fallait les montrer. C'est idiot d'avoir des archives si on ne les montre pas au public. Et les archives, parfois, ça peut être, ingrat, mais je trouvais qu'elles elles ont du sens, elles ont de la richesse. Ne serait-ce que l'écriture qui est belle, qui est généreuse, les livres, les photos, les objets, la bibliothèque de Truffaut, dont on a la chance de l'avoir dans nos archives, son bureau, son vrai bureau, son vrai canapé, enfin, tout ça me semble être intéressant à exposer. Et nous avons fait cette belle exposition, et là je suis très content. Dans un mois, je vais au Brésil, parce que l'exposition va à São Paulo, puis après elle va voyager ailleurs aussi. Donc je vais accompagner Truffaut à l'étranger. Et Truffaut est aujourd'hui encore, on est en 2015, sans doute le cinéaste français le plus connu aux États-Unis, au Brésil, au Japon et dans d'autres pays, alors qu'il est mort il y a 31 ans. Donc vous voyez que quelque chose s'est transmis, alors que lui qui est si français, si parisien, si épidermiquement, français, il parlait très mal l'anglais. Son œuvre a énormément voyagé dans le monde.
Est-ce qu'il y a des cinéastes qui ont repris un peu cette...
Oui, oui.
À votre sens.
Ah oui, beaucoup de cinéastes s'inspirent de lui. Beaucoup. Je cite un pour... parce qu'il y en a rien d'autre. Un cinéaste dont on parle, puisque son film vient de sortir et qui est magnifique, c'est Trois souvenirs de ma jeunesse, si vous voulez, de Arnaud Desplechin, que j'ai vu à Cannes, qui est un film magnifique. Je vous recommande de le voir dès qu'il sera... visible, je sais qu'il a en salle dans les grandes villes, mais s'il vient ici, allez le voir. Et je vous assure que dans ce film, la référence à Truffaut, elle est, je peux vous la pointer, elle est explicite. Là, c'est une référence voulue, c'est pas, il copie pas, mais il dit dans ce film son admiration pour les deux Anglaises et continentales. pour la musique de Georges Delerue, je n'ai pas parlé de la musique, parce que c'est une autre expression dans l'œuvre de Truffaut, mais pour dire un cinéaste contemporain, et pas des moindres, pour moi, un des meilleurs cinéastes français contemporains, sa référence, c'est François Truffaut. Si vous voulez lire la biographie qui est parue en folio, qui est très riche, très dense, qu'on a écrite avec Debecq, et puis le catalogue de l'expo, où il y a beaucoup de documents de l'exposition et du fonds Truffaut. Merci beaucoup.